Dans les évangiles retentit cette parole attribuée à Jésus : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Frères et sœurs de l'oratoire, frères et sœurs du foyer de l'âme, frères et sœurs qui êtes venus ce soir pour vous recueillir, pour vous mettre à l'écoute du serviteur souffrant, non pas pour tirer quelque satisfaction d'une souffrance sur la croix, non pas pour s'abîmer dans le deuil ou dans la douleur, mais pour entendre de quelle manière l'Évangile résonne malgré la croix, de quelle manière l'Évangile résonne malgré l'obscurité, malgré les crises, eh bien la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, l'homme véritable, l'être humain authentique, dans la vérité et dans l'amour. Et pour nous placer face à l'Éternel et vivre ce temps de culte de la manière la plus spirituelle qui soit, je vous propose de prendre notre psautier français. Nous chanterons au psaume 25, les strophes 1, 2 et 5 du psaume 25. Levons-nous pour chanter Dieu.
Nous prions Dieu avec le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des maux que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit, et je n'ai pas de repos. Toi pourtant, tu es le saint. Toi, tu habites les champs de tes fidèles. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et ils n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, même pas un homme. Raillé par les gens, rejeté par le peuple, tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent, hochent la tête. Ils comptaient sur l'Éternel qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance et dès le ventre de ma mère tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et qui rugissent ouvrent la gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile et ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Éternel, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne du buffle. Tu m'as répondu. Je proclame ton nom devant mes frères et sœurs. Je te bénis en pleine assemblée. Vous qui le cherchez, chantez l'Éternel. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, espérez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui. Il entend sa plainte. Éternel, tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te cherchent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Amen. Alors après ce psaume qu'a prié Jésus sur la croix, nous vous proposons, avec mes chers collègues Vincent et James, de suivre le cantique 119 dans le petit recueil « Louanges et prières », chef couvert de blessures, meurtri pour nous pécheurs. En fait, vous pourrez garder la page ouverte, car nous allons chanter d'abord la strophe 1, mais ensuite, ce cantique va continuer ce cantique pour rythmer les lectures de l'Évangile, donc du Vendredi Saint. Et donc nous lisons pour cette semaine de Pâques, nous avons pris l'Évangile selon Marc. Et donc nous sommes au chapitre 14 et je commencerai à partir du verset 32. Jésus et ses disciples allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillés. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ce que je veux, mais ce que tu veux qui se fasse. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau et il pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient pas que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signal, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Rabbi ». Il l'embrassa, et alors ses gens portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous et j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, mais un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et il s'enfuit tout nu. Deuxième strophe.
L'évangile selon Marc continue ainsi. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme » et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Mais Jésus garda le silence. Il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à le voiler sur le visage et à frapper à coups de poing. Et il lui disait « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant eux aussi des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Et voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié.
Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte, ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui. Et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui mirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix à un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le mènent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hey, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ?» Ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « voilà qu'il appelle Élie ». Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là ». Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Père, en entendant ces mots, ces lectures, puissions-nous puiser dans ces lectures la force de vivre, y trouver du sens et de la lumière, malgré la peine et le désespoir. Amen. Dans le christianisme classique, on a l'habitude de dire que tout se joue au matin de Pâques. Mais je pense que tout se joue le vendredi soir. Les textes que nous avons lus, tous ces textes relatifs à la passion, à la mort de Jésus, que ce soit ceux de Marc, entendus ici ce soir, ceux de Matthieu, de Luc ou de Jean, sont des textes qui sont sans doute fondés sur une partie historique et réelle, mais la plupart de ces textes sont des composés théologiques qui nous disent une vérité importante, fondamentale. Ce sont des composés théologiques d'une intensité extraordinaire et formidable. La passion. La passion est lourde, dense, parce qu'elle contient et porte en elle toutes les souffrances humaines. Si vous réentendez ces textes et si vous les relisez tranquillement ce soir, peut-être, je ne sais pas, ou un autre jour, peu importe, si vous arrêtez à chaque passage, vous verrez qu'on fait le tour de tout ce qu'un être humain peut subir lorsqu'il est dans le malheur, et quel que soit ce malheur. Ce soit des incompréhensions, des mensonges, faux témoignages, reniements, trahisons, supplices, moqueries, et puis la souffrance biologique, évidemment, et la mort au bout de la route, et bien d'autres choses encore qu'on pourrait déceler au fil des lignes. Il y a là une mort que Jésus porte en lui, qui est une mort totale. Et chez Marc, elle est particulièrement dramatique. Elle est dramatique et elle finit dans l'abandon le plus total, et elle finit par un cri dans la nuit. Je ne dis pas que les autres évangiles soient plus positifs, le mot ne conviendrait pas, évidemment, mais dans l'une, il y a le pardon quand même qui est dit. Il y a un discours avec les deux larrons qui sont crucifiés en même temps que Jésus, tandis que chez Marc, il n'y a que des injures. Il y a aussi chez Matthieu la résurrection des morts qui est dite. Et puis le tout est accompli, de Jean qui a l'air de nous dire qu'une sorte de programme ou de projet est en train de s'achever, d'être mené à terme finalement. Mais dans Marc, il n'y a rien de tout cela. Jésus est au plus bas de la détresse humaine qu'il porte dans sa souffrance et dans son désarroi absolument total, comme s'il portait la souffrance des hommes et du monde, et comme si chacun, chacune d'entre nous, chaque être souffrant pouvait se reconnaître dans la passion. Quand nous avons lu les évangiles comme cela, avec les rencontres que Jésus peut vivre avec l'une, avec l'un, une guérison, un partage, un discours, une dispute théologique avec les pharisiens ou que sais-je encore, on imagine mal que tout cela va mal finir. Et on a l'impression, lorsqu'on arrive à la mort de Jésus, qu'il y a une victoire du mal. Est-ce que Caïn aurait-il eu le dernier mot? Est-ce qu'il y a là le point final dans la lutte cosmique entre le bien et le mal? Le juste meurt. Celui qui porte en lui le bien, la volonté de faire vivre les hommes dans leur plénitude, qui les appelle par leur nom, qui leur pose la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Quel est ton désir, ton besoin, quel est ton manque ?» Celui qui tend la main à ceux que tout le monde ignore, le juste meurt. Quel intérêt y a-t-il à vivre avec cela, finalement ? Deux, trois siècles avant, l'Ecclésiaste va le dire, tout est vanité, tout est inconsistance, vapeur, buée, parce que, regardez l'injustice du monde que l'Ecclésiaste dénonce là, alors que le riche prospère et que le malheureux meurt. Il y a Job aussi qui pose la question du mal, qui reste en suspens et sans réponse parce qu'elle nous dépasse infiniment. Le juste meurt, les autres triomphent. C'est vraiment le chaos, c'est vraiment le n'importe quoi, le néant, la béance, comme je peux en être témoin parfois quand je vais enterrer des SDF et qu'il n'y a personne le matin au cimetière pour les laisser mourir tout seuls comme ils ont vécu. On est dans le chaos, dans n'importe quoi. On est véritablement dans les ténèbres, sinistres, signe de mort. C'est quand même le mot qui est utilisé en grec. Pas la nuit, ce sont les ténèbres, c'est-à-dire la nuit vue de manière pesante et négative. Alors à ce stade de la lecture, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de la bonne nouvelle là-dedans finalement? Quelque chose qui va nous toucher? De telle sorte qu'on puisse dire, bah oui, on peut quand même vivre malgré cela. Bien oui. Oui, car dans sa mort totale, dans cette souffrance portée totale, Jésus se place ici résolument du côté des malheureux. Que vous soyez malade, exclu, que vous sentiez incompris, que vous soyez dépressif, que vous soyez dans le deuil, Jésus est là, de votre côté, incontestablement. Lorsqu'on en a le plus besoin, lorsque nous sommes dans la détresse, nous savons que lui aussi est passé par là. Et que s'il y a quelqu'un avec lequel on peut entrer en dialogue, c'est bien avec lui. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fantastique. Lorsqu'on visite un malade, par exemple, dans un hôpital et dans des unités de soins palliatifs ou dans des services de maladies pas possibles, eh bien, savoir que Jésus a été, comme cela, le porteur de la souffrance du monde, je crois que c'est quelque chose qui a du sens, finalement. Oui, il y a la bonne nouvelle dans cette crucifixion. Pour cette deuxième raison, c'est que là se révèle la puissance de Dieu. C'est dans cette mort que Dieu révèle vraiment sa toute-puissance et qu'il la réalise, précisément. Aucune religion, aucun Dieu à ma connaissance, ne dit cela et ne vit cela. Vous pouvez lire la Torah. Dieu, là-dedans, c'est le Dieu d'Israël qui conduit son peuple vers la réalisation d'une promesse. Vous pouvez lire le Coran, rien de ça, évidemment, dans le Coran, Dieu est plutôt triomphant. Vous pouvez aller chercher du côté du bouddhisme, qui n'a absolument rien à voir avec le christianisme, puisque le monde y est vu de manière négative et qu'il faut s'extraire du monde par la méditation et atteindre cet état de, je dirais, nirvana, comme on dit. Et la compassion n'a rien à voir avec l'agapé. Alors qu'au contraire, le Dieu de Jésus-Christ, au lieu de s'extraire du monde, va plonger précisément dans le monde. Si vous regardez du côté des paganismes, il y aura peut-être un Dieu comme cela qui va s'intéresser au monde et puis qui va descendre vers les plus malheureux, mais pas du tout. Si vous regardez les histoires de Zeus et compagnie, lorsqu'ils descendent vers le monde, c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a une jolie fille qui les attire et qu'ils ont précisément envie de coucher avec. Les histoires de Zeus, il y en a épais dans la mythologie, vous savez, aussi bien que moi. Et ainsi de suite. Je ne connais pas de Dieu qui soit assez puissant pour être à la fois le Père créateur du ciel et de la terre, comme nous le confessons de temps en temps, et en même temps, celui qui aura assez de force et de puissance pour descendre au plus bas du plus bas, pour aller toucher le plus méprisé des méprisés et aller le chercher, le sortir du bourbier. C'est ça le christianisme, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on a rajouté au fil des siècles, ce n'est que de la dogmatique et de la théologie qui embrouillent les cartes, finalement. Mais c'est ça que nous sommes appelés à vivre, finalement. Ce Dieu tout-puissant qui se met, lui, à notre niveau, même si nous sommes au niveau zéro de l'existence. Il y a une troisième annonce de la bonne nouvelle là-dedans. C'est que le voile du temple est déchiré, vous le savez. Le Saint des Saints était fermé parce que nul ne pouvait voir Dieu sans mourir, sauf le grand prêtre au jour du Yom Kippour, du grand pardon, après un rituel de purification assez complexe. Mais là, le voile est déchiré. Eh bien, Dieu est visible, il est accessible. Il est accessible pour tous les rêves. Et celui qui un jour sera persécuté quelque part sur l'île de Patmos, qui a signé l'Apocalypse de Jean, il verra lui aussi le voile du temple déchiré, c'est-à-dire le ciel ouvert, de la même vision, le même sens. Et là, il verra une grande vision de l'histoire et de l'espérance, une très grande révélation. Oui, il y a, au soir du Vendredi Saint, l'essentiel du christianisme qui est dit, bien avant Pâques. Alors c'est vrai que cet essentiel est dit dans la tourmente, dans la peine et dans la souffrance, évidemment, ce qui fait que nous sommes moins joyeux que le jour de Pâques, le jour de la résurrection, ça va de soi, évidemment. Mais ce qu'il est intéressant, c'est que, alors qu'on a l'impression que la mort triomphe, ben c'est pas vrai. Le mal est vaincu, alors qu'il pensait avoir triomphé. La mort, le mal sont vaincus, là, sur la croix, précisément. Et l'évangile de Marc, avec cette souffrance, avec ce, peut-être sa sobriété aussi, qui nous dit tout cela, cet évangile de Marc est véritablement prophétique, c'est une prédication qui est porteuse de la parole de Dieu. La nuit, elle est là, elle couvre l'ensemble de ce drame, et après le cri qui déchire cette nuit, qui marque le point final, finalement, de cette crucifixion, si j'ai pu dire, la mort qui est là présente, eh bien la nuit qui est là, épaisse et dramatique, les ténèbres, cette nuit est la nuit où tout commence, précisément. Le rideau déchiré, la souffrance du monde partagé sont là posées dans l'éternité. Elles sont là comme des vérités indestructibles. La nuit, après le cri, est une décompression totale. Elle est là, elle nous laisse avec la peine, avec des rêves brisés, avec des ruines, avec de la fatigue aussi. Mais elle est là aussi cette nuit, après la tourmente, avec un repos nécessaire, peut-être de la méditation, telle que l'ont vécu les deux compagnons qui descendaient de Jérusalem à Emmaüs et puis qui, parlant des choses qui venaient de se passer, etc., ont avancé dans la nuit, eux aussi. La nuit, elle est là et elle va déboucher sur l'aube, sur la lumière qui pointe doucement. La nuit, elle est aussi porteuse d'espérance. La nuit, c'est le début du monde. Car le début du monde, dans la Bible, commence par la nuit. C'est le début de la création. Il y eut un soir, une nuit, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La nuit est nécessaire à la création. La nuit, c'est peut-être le moment de la sagesse, du recul et du silence, qui permet d'être rempli précisément par un acte créateur. Le jour ne peut pas être sans la nuit qui précède. La nuit du vendredi, cette nuit, c'est le début d'un jour nouveau. C'est le début d'une lumière nouvelle, d'un monde nouveau. Vendredi Saint, c'est le premier jour d'une nouvelle création. La création du voile déchiré, du cri dans la nuit, d'un amour révélé, jusque dans la mort. Amen.
Nous poursuivons cette méditation par le chant du cantique 143. Nous chanterons les 5 strophes de ce cantique et nous nous levons pour chanter. Prenons place. Le temps de Pâques se déroule. Nous étions hier au foyer de l'âme, ce soir à l'oratoire. Demain, à 18h, ici même, nous pourrons nous retrouver pour chanter Pâques. Un temps méditatif, mais surtout un temps laudatif par l'orgue, par le chant, demain à 18h. Et puis dimanche, à 10h30, le culte de Pâques, ici même, au foyer de l'âme, dans toutes les églises de l'Église protestante unie, qu'elles soient luthériennes ou réformées, donc notamment à Bon Secours, rue Titon, mais aussi dans d'autres lieux, même rive gauche, vous serez les bienvenus. C'est maintenant le temps de l'offrande, et bien c'est un temps pour exprimer notre reconnaissance en dépit d'eux.
Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine et tu veux pour chacune et chacun la joie. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort et tu veux pour chacun la vie, une vie profonde et vraie, une vie en mouvement, une vie qui monte. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi notre vie telle qu'elle est, enténébrée et lumineuse, blessée et ouverte à l'espérance. Et nous pouvons considérer devant toi en vérité les soucis, les questions et les détresses de celles et de ceux que nous avons à cœur d'aider pour que tu nous aides à faire au mieux. Avec toi, nous voulons réconforter les affligés, ceux qui sont en souci pour la maladie, maladie du corps, maladie de l'âme, maladie de toutes sortes, pour ceux qui sont en souci pour ceux qu'ils aiment. Nous pouvons, avec toi, avoir une pensée pour ceux qui souffrent en ce monde, quel que soit le nom dont s'appelle cette souffrance et quelle que soit leur responsabilité dans cette souffrance qui les afflige. Aide-nous à être porteurs dans ce monde d'une force nouvelle, d'une paix, d'une recherche de justice et de fraternité. Aide-nous à être porteurs de ta parole manifestée fidèlement en Jésus-Christ, d'une parole d'espérance, une parole de dignité, d'une dignité retrouvée, d'une espérance nouvelle pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant du monde. Aide-nous à faire de ce monde un monde de frères et de sœurs, tous enfants du même Père que nous avons dans les cieux. Oui, nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, après la bénédiction que nous allons recevoir de la part de Dieu, nous chanterons le cantique 403. Donc je propose d'aller déjà chercher la page pour que nous soyons prêts à l'entonner après la bénédiction, selon les paroles qui sont confiées à Moïse pour que nous nous bénissions les uns les autres. L'Éternel te bénit et qu'il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. À Dieu seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.